Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans l'émission « Et si on en parlait ?» en partenariat avec la revue « Politique et parlementaire ». Et dans l'émission cette semaine, nous allons revenir sur des sujets qui occupent l'actualité ces dernières semaines, ces derniers mois, et je dirais même depuis pratiquement le début des quinquennats d'Emmanuel Macron, mais surtout ce quinquennat depuis 2022, avec les questions de société, droits des femmes, lutte contre les violences faites aux femmes, constitutionnalisation de l'interruption volontaire de grossesse, et aujourd'hui on parle d'un projet de loi à venir sur l'aide à mourir. Bref, les sujets de société, les avancées sociétales sont au cœur de ce second quinquennat du président Emmanuel Macron. Et bien, on a eu envie d'en parler avec nos invités. Bonjour Guillaume Trichard.
Bonjour.
Vous êtes grand maître du Grand Orient de France. Et à ce titre, on souhaitait bien vous entendre, bien sûr, à la fois le moment choisi pour aborder ces questions de société et puis sur l'ampleur des réformes qui ont déjà été faites, on pense à la constitutionnalisation de l'IVG, et aussi vos attentes peut-être par rapport à d'autres sujets de société, et on aura l'occasion de revenir aussi sur le projet de loi Aide à mourir.
Avec plaisir.
Voilà. Donc ma première question, c'est finalement, est-ce que vous êtes satisfait, bien que le président de la République ait mis un certain nombre de sujets de société au cœur du débat, mais aussi dans la mise en œuvre de politiques publiques ou de protection juridique, par exemple la constitutionnalisation de l'IVG le 4 mars dernier.
Écoutez, il était temps, je pense notamment à la fin de vie, nous y reviendrons tout à l'heure, il était temps, ce gouvernement nous a habitués à procrastiner. Donc, si vous voulez, sur la constitutionnalisation de l'IVG, à l'heure où les périls de l'extrême droite menacent partout les pays en Europe et dans le monde, le fait de pouvoir sacraliser le droit et la liberté pour les femmes de recourir à l'interruption volontaire de grossesse, évidemment, était nécessaire, et le Grand Orient de France se félicite de ce vote des parlementaires réunis en congrès. Mais ce n'est, je crois encore, qu'une étape dans le combat pour l'émancipation des femmes. D'abord parce que nous souhaitons, comme beaucoup d'humanistes sincères, que ce droit à l'IVG puisse devenir un droit universel, et en l'occurrence le souhait du président de la République de vouloir le faire inscrire dans la charte de l'Union européenne me paraît une très bonne chose. Et puis il y a donc beaucoup de pays où les droits des femmes sont menacés et même reculent. Je pense à l'Iran, je pense à l'Afghanistan, un certain nombre de pays aussi où l'extrême droite a conquéri le pouvoir, et nous devons être absolument vigilants.
Et même des démocraties comme les États-Unis, où il y a des velléités, il y a déjà des grandes difficultés pour les femmes, dans certains États, d'avoir accès à l'IVG, et globalement, le débat revient aux États-Unis sur le recul ou la remise en cause de ce droit.
Souvenons-nous de la décision de la Cour suprême des États-Unis qui avait décidé finalement de laisser la liberté aux États fédéraux de pouvoir légiférer différemment selon leur volonté, selon la volonté politique du moment. Et le spectre du retour de Donald Trump au pouvoir n'est pas du tout une bonne nouvelle en ce sens.
Alors, d'une manière plus générale, le président de la République a souhaité mettre en place un certain nombre de dispositifs ou annoncer des renforcements, notamment sur la lutte contre les violences faites aux femmes. Il y a eu un Grenelle aussi en 2019. Est-ce que vous pensez justement qu'on va suffisamment loin et que derrière les intentions, les moyens sont au rendez-vous ?
L'intention, elle est juste, et elle est noble, elle est absolument nécessaire. Est-ce que les moyens sont au rendez-vous ? Force est de constater que les associations que nous aidons au travers de la Fondation du Grand Orient de France nous disent le contraire. Elles ont besoin d'ailleurs de plus de moyens, et il est heureux que des fondations comme la nôtre puissent venir les aider. Mais je crois que ce combat est également un combat de chaque instant, et ça passe évidemment par l'aide concrète et le soutien immédiat des femmes victimes des violences sexistes et des violences criminelles, mais ça passe également, je le crois, à plus de moyens donnés à l'éducation. Vous savez, au Grand Orient de France, nous sommes convaincus que c'est à l'école, c'est l'école gratuite, publique, laïque de la République qui fait les républicains, qui fait des républicains complètement émancipés, et évidemment des républicains qui ont à cœur de respecter le genre humain dans son entièreté.
Alors vous le dites, effectivement, il y a les associations, et puis il y a aussi les moyens donnés à la justice, parce qu'on le sait, le maillon faible, on l'a vu dans des affaires récentes et très médiatisées. Il y a d'abord la libération de la parole, mais il y a aussi derrière l'accueil, l'accompagnement, les dépôts de plaintes qui, encore aujourd'hui, apparaissent comme un geste douloureux à accomplir. On a aussi un ministre de la Justice qui dit qu'il faut que les parquets aussi instruisent et que la chaîne pénale puisse fonctionner à plein sur ces sujets.
Alors je ne suis pas le plus qualifié pour évaluer les moyens donnés à la justice, mais on se rend bien compte que les services publics, la justice est un service public. Les services publics sont en panne dans notre pays, faute justement, comme vous le soulignez, de moyens suffisants, de moyens nécessaires donnés. Ça vaut d'ailleurs pour un certain nombre d'autres domaines, comme par exemple l'accès aux soins, puisqu'il ne vous aura pas échappé que lorsque une femme est victime de violence, elle doit et elle peut faire recours à des médecins, aller au service d'urgence. Vous voyez dans quel état est notre système de soins publics français. Et donc je crois que cette réflexion sur les services publics, elle est absolument nécessaire. Nous la menons au Grand Orient de France parce que il n'y a pas de république qui protège ses citoyens, ses enfants, sans service public fort. Et évidemment, la justice en fait partie.
Alors, on va revenir sur un autre sujet qui, là, pour le coup, est devant nous. Il y a un projet de loi qui a été annoncé par le président de la République sur une aide à mourir. Donc, l'idée serait d'aller plus loin vers la possibilité d'offrir un droit à mourir, entre guillemets, sans aller d'ailleurs jusqu'à l'euthanasie ou le suicide assisté. On semble à ce stade-là sur un projet de loi avec une ambition de régler certaines situations douloureuses, notamment de maladies graves et incurables. Quelle est votre vision du sujet ?
Vous savez, le Grand Orient de France a toujours été, un de ses combats, au cœur de ses combats d'émancipation. Et ça depuis plusieurs décennies. Souvenez-vous du sénateur Caillavet qui était franc-maçon et qui a consacré toute sa vie sur ces sujets, sur les sujets qui sont liés finalement à la libre disposition du corps humain par celui qui le possède, c'est-à-dire les hommes et les femmes. Ça rejoint d'ailleurs le débat, les questions qu'on vient d'avoir sur la constitutionnalisation de l'IVG. Au Grand Orient de France, nous sommes favorables évidemment à ce que l'homme ou la femme soit totalement en libre disposition de son corps pendant toute sa vie jusqu'à sa mort. Toute sa vie, évidemment, ça fait par exemple écho pour les femmes à la constitutionnalisation de l'IVG, au recours à l'IVG. Ça fait également écho à la PMA pour toutes. Et puis jusqu'à sa mort, eh bien, c'est cette loi d'ultime liberté que nous réclamons, que nous demandons, qui est finalement le choix ultime laissé à l'être humain qui se sait condamné de pouvoir choisir l'instant de sa finitude. Et évidemment, en ce sens-là, pourquoi c'est un des grands combats du Grand Orient de France ? C'est parce que c'est un combat laïque. Et on le voit bien sur ces sujets, que ce soit sur l'IVG comme sur le sujet de la fin de vie, on le voit, le retour des dogmes religieux et de ces religions, à l'instar de l'Église catholique, qui voudrait que une loi d'un Dieu soit au-dessus de la loi des hommes, que les hommes et les femmes soient finalement restreints dans leur liberté parce que il y aurait une prétendue loi divine. Nous le disons très clairement, il faut que nous puissions obtenir cette loi. C'est une loi de liberté, c'est une loi nécessaire, une loi d'émancipation absolue. Et évidemment, tous les francs-maçons du Grand Orient de France sont engagés partout en France pour la réclamer, parce que, je le crois, il y a eu une convention citoyenne sur la fin de vie. Une grande majorité des citoyens réunis dans cette convention se sont exprimés favorablement. Ça correspond à une volonté générale, puisqu'on a tous été confrontés un jour dans notre vie à un proche, à un parent, à un ami en grande souffrance. Et à l'heure où les progrès médicaux ont fait tant de bien pour l'humanité, il est absolument anormal qu'un être humain puisse être en souffrance, y compris en souffrance morale, se sentant condamné. Et donc je crois que cette aide active à mourir, elle est absolument nécessaire. Nous la soutiendrons et évidemment nous soutenons cette initiative. Nous serons simplement vigilants sur le calendrier, parce que ça fait maintenant plusieurs années qu'il y a en la matière procrastination, comme je le disais tout à l'heure. Il est désormais urgent que les parlementaires puissent légiférer.
Alors, dernière question, et je vous demanderai une réponse un petit peu courte. On arrive à la fin de l'entretien. Vous avez parlé effectivement des religions qui sont un petit peu, voire même très réticentes, mais il y a aussi pas mal de questions d'éthique. Il y a aussi des médecins, il y a aussi dans la société des gens qui s'inquiètent bien de certaines dérives qui pourraient finalement naître de cette plus grande liberté qu'on donnerait aux gens de choisir le moment de mourir finalement.
Vous savez, c'est le même débat qu'il y avait eu à l'époque sur la législation sur l'IVG. Hein. Je crois que la loi, il faut qu'elle encadre les conditions de recours et qu'elle encadre les conditions d'exercice de cette aide active à mourir. Et puis il y a la clause de conscience, je le crois, qui devrait exister dans ce dispositif. Encore une fois, l'idée, c'est d'octroyer plus de droits aux êtres humains, pas d'en enlever aux autres. Ceux qui ne souhaiteront pas recourir à ce dispositif seront libres, en toute conscience, de ne pas le faire. Mais je crois encore une fois que dans cette loi d'ultime liberté, il s'agit là de la liberté absolue de conscience, de la liberté absolue de choisir, qui doit évidemment être encadrée par la loi.
Merci beaucoup Guillaume Trichard. Je rappelle que vous êtes grand maître du Grand Orient de France, et c'est pour ça aussi qu'on avait souhaité vous interroger dans l'émission aujourd'hui. Et je crois qu'on a bien entendu votre point de vue sur ces grandes questions de société qui aujourd'hui sont en débat et aboutiront peut-être ou pas, nous le verrons dans les mois qui viennent, à de nouvelles décisions. En tout cas, on vous remercie d'avoir accepté notre invitation.
Merci à vous.
Merci.
Au revoir.
Et si on en parlait ? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.
Vous êtes sur Radio Orient, dans la deuxième partie de l'émission « Et si on en parlait ?» en partenariat avec la revue politique et parlementaire. Et dans la deuxième partie de l'émission, où nous allons continuer à comprendre et à analyser bien les raisons qui ont amené le président de la République et le gouvernement à porter un certain nombre de réformes sur les sujets de société, j'ai le plaisir d'accueillir Bruno Cotrez. Bonjour Bruno.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes chercheur CNRS au CEVIPOF et anciennement à Sciences Po, et bien que vous allez peut-être pouvoir nous éclairer sur les raisons de la mise à l'agenda médiatique de plusieurs réformes de la part du gouvernement et surtout du président de la République qui reprend un petit peu ces sujets. Et ma foi, après la constitutionnalisation de l'IVG le 4 mars dernier, se prépare un projet de loi sur l'aide à la fin de vie, hein, et donc on a l'impression qu'il y a une espèce d'accélération autour de ces questions de société.
Oui, il y a bien une accélération sur les questions de société. Vous savez, il y a deux grandes dimensions fondamentales de l'action politique quand on est un gouvernant. Il y a tout ce qui est de l'ordre de la sphère socio-économique, l'économie, l'emploi, le chômage, les salaires, les retraites. Et puis, il y a tout ce qui est de l'ordre des sujets sociétaux, dits sociétaux. Et donc, c'est vrai qu'Emmanuel Macron, dans son premier mandat, en 2017, particulièrement au début de ce premier mandat, a beaucoup été sur les questions socio-économiques. Réforme du Code du Travail, réforme de la SNCF, flexibilité accrue. Voilà, donc on a beaucoup vu Emmanuel Macron jusqu'à la crise des Gilets jaunes, fondamentalement sur ces thèmes. On a eu ensuite un Emmanuel Macron qui, après la crise des Gilets jaunes, est venu sur un autre thème qui est celui, au fond, de comprendre les difficultés de la société française, avec notamment quelque chose qui n'était pas tellement dans son agenda au départ, qui était les grandes questions régaliennes. Et puis là, on a un Emmanuel Macron qui, maintenant, dans son second mandat, essaie de donner du sens à ce second mandat. Or, le sens de ce second mandat, pour le moment, est tout sauf clair. Et donc, le chef de l'État essaie de retrouver les habits, au fond, du Emmanuel Macron de départ, celui qui veut faire bouger les lignes, celui qui veut faire bouger la société française. Dans un premier temps, au début de son premier mandat, c'était sur l'économie. Ben là, c'est sur les dimensions sociétales, l'inscription de l'IVG dans la Constitution, un pas qui a été fait sur une législation française en matière d'aide à mourir. Et puis maintenant, on le voit sur la question de l'autonomie de la Corse et de prévoir, au fond, la reconnaissance d'un statut d'autonomie de l'île Corse dans un projet dit d'écriture constitutionnelle. Donc voilà un certain nombre de sujets qui essayent d'inscrire le deuxième mandat d'Emmanuel Macron dans une direction, dans un sens que nous avons, nous les observateurs, pour le moment quand même toujours beaucoup de mal à bien décoder et à bien comprendre.
Alors on va revenir sur les dernières annonces, effectivement, et l'accélération du temps politique et médiatique avec notamment effectivement les sujets comme l'autonomie de la Corse et l'aide à la fin de vie. Mais Emmanuel Macron avait aussi au début de son premier quinquennat, hein, fait notamment de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes une grande cause nationale. On se rappelle qu'il y a eu un Grenelle en 2019, et parfois il y a eu aussi des critiques, parce que on l'a vu avec la récente polémique autour de Julie Godrèche, mais avant il y avait eu la critique sur la polémique autour de Gérard Depardieu, des messages un peu contradictoires parfois envoyés sur ce sujet.
Oui, des messages contradictoires. Pendant sa campagne de 2016-2017, le futur chef de l'État avait même dit que rien n'était plus important et essentiel à ses yeux que de dégager des moyens considérables pour lutter contre les violences faites aux femmes, assurer davantage d'égalité dans la société. Les associations défendant les droits des femmes, les associations féministes avaient entendu le chef de l'État promettre par exemple 1 milliard sur ces questions qui ne sont jamais arrivées fondamentalement. Donc on a un chef de l'État qui, sur ces questions, a temporisé, a même donné le sentiment de zigzaguer, et c'est vrai, a beaucoup marqué les esprits au cours des derniers mois avec sa déclaration à propos de Gérard Depardieu, disant que la France ne pouvait qu'être fière de l'acteur. Et donc, effectivement, un certain sentiment de confusion sur ces questions-là. De même, sur la législation future en matière d'aide à la fin de vie, les associations disent toutes qu'il s'agit d'un pas extrêmement important qui est donné, mais en même temps, on trouve que la France reste un petit peu au milieu du guet, par exemple refusant d'utiliser le mot d'euthanasie dans la législation. Donc voilà, on retrouve ici un certain nombre d'ambiguïtés qui sont celles qui sont caractéristiques de la démarche d'Emmanuel Macron, de ce fameux « en même temps » où on fait un pas en avant, un pas en arrière, un pas à gauche, un pas à droite.
Et c'est vrai que sur cette question de l'aide à la fin de vie, il y avait à un moment donné une méthode qui avait été installée avec notamment, je crois me rappeler, une convention citoyenne qui a délibéré et travaillé sur ce sujet. Et bien le président de la République avait quand même pris aussi un certain nombre d'engagements vis-à-vis de ses citoyens assemblés. Et il souhaitait, je crois que ça avait été quand même l'objectif de cette convention citoyenne, trouver un certain nombre de propositions qui puissent faire, si ce n'est un consensus, en tout cas, qui puisse trouver l'assentiment d'une grande partie de la population.
Oui, on retrouve d'ailleurs au fond un peu le même scénario qu'au moment de la Convention citoyenne sur le climat. À la fois quelque chose qui est très intéressant et très innovant au point de vue démocratique, c'est-à-dire aller chercher dans la société civile au fond à la fois la manière de poser un problème, de faire en sorte que les différents courants d'opinion à propos de cette question puissent s'exprimer, puissent être pris en compte. Donc une démarche qui est plutôt très bonne du point de vue du fonctionnement démocratique. Et en même temps qu'on a ça, alors, une grande difficulté de l'exécutif et du chef de l'État par la suite à nous dire exactement ce qu'ils ont retenu ou pas de ces conventions citoyennes et pour quelles raisons. Voilà, et sur la convention fin de vie, c'est peut-être moins un... De ce point de vue-là, la situation est peut-être moins contradictoire que pour la convention citoyenne sur le climat, où là, les conventionnels, à la fin, avaient même noté la capacité de l'exécutif à mettre en œuvre et avaient été très sévères sur la manière dont l'exécutif n'avait pas repris leurs propositions. Donc voilà, on voit à nouveau un peu un des effets du en même temps, donner la parole à la société civile et au pays, délibérer, et puis après donner le sentiment qu'on décide depuis l'Élysée.
Oui, et qu'on a du mal finalement à traduire en acte le fruit de ces délibérations, et on se rappelle effectivement qu'il y avait eu une certaine confusion à l'issue des travaux de la Convention citoyenne sur le climat, et même qu'une partie des gens s'était fortement exprimée en notant l'inaction du gouvernement.
Oui, au fond, le problème que tout cela soulève, en particulier sur les grands sujets de société, mais on pourra l'avoir à l'occasion sur de grandes questions économiques, mais sur les grands sujets de société, effectivement, cette contradiction apparaît bien. Au fond, tant qu'on n'a pas décrit dans nos institutions, dans le texte de notre Constitution, tant qu'on n'a pas décrit qu'est-ce que c'est que ces nouveaux outils de la démocratie délibérative, quel statut ils ont, quelle est la tuyauterie constitutionnelle qui va d'une assemblée qui délibère vers les assemblées qu'elles représentent, les citoyens au suffrage universel, l'Assemblée nationale et le Sénat. Tant qu'on n'a pas éclairci au fond quels sont les mécanismes de navette institutionnelle qui vont de ces différentes institutions de l'une vers l'autre, au fond on risque d'avoir régulièrement ce problème. C'est formidable et c'est très bien de délibérer, mais une fois qu'on a délibéré, si au fond tout revient à la décision du chef de l'État et de sa majorité, et où le lien institutionnel n'est pas parfaitement clair pour l'ensemble du pays, on aura sans aucun doute ce sentiment un petit peu de confusion, et qu'on a délibéré, mais qu'au fond, on décide de ce que l'on veut. C'est pas comme ça que ça se passe dans la réalité, mais c'est bien vrai que c'est pour le moment le sentiment qui se dégage d'un exécutif qui n'a pas su aller pour le moment jusqu'au bout de l'idée de ressourcer, de renouveler le modèle de la délibération démocratique dans notre pays, malgré des avancées extrêmement intéressantes, comme le grand débat national et les conventions citoyennes.
Alors, dernière question. Effectivement, c'était bien de resituer ces débats autour des outils de prise de décision et de dialogue avec la société civile, qui était effectivement, on s'en rappelle, un engagement du candidat Macron dans sa première campagne présidentielle. Mais aujourd'hui, dans le calendrier politique qui s'annonce, avec notamment les élections européennes à venir, et puis on sort de séquences un peu compliquées pour le gouvernement, la réforme des retraites il y a plus d'un an, et puis là la crise avec les agriculteurs, est-ce qu'il n'y a pas aussi une volonté politique de reprendre un petit peu la main sur un agenda politique et de mettre aussi de faire un petit peu de l'actualité en inscrivant des sujets que le président ou le gouvernement sont capables de porter et parfois de traduire avec succès, comme la constitutionnalisation de l'IVG qui finalement a réussi à rassembler assez largement les forces politiques et les Français.
On voit bien que c'est ça effectivement la stratégie de communication politique de l'exécutif en ce moment, qui est au fond d'asphyxier l'espace public. Il ne se passe pas une journée sans que nous n'ayons une prise de parole d'Emmanuel Macron dans tous les sujets, dans tous les domaines. Et avec des effets potentiellement paradoxaux, il y a effectivement ce que vous soulignez. Ça peut permettre à l'exécutif de montrer qu'il a pu mener à bien une discussion avec le pays et que ça se traduise en actes. Par contre, ça peut aller dans le sens opposé, le sentiment d'une très grande confusion, d'un exécutif qui, au fond, est pris dans une spirale de communication sans que tout ceci ne dessine un projet politique extrêmement clair. Et pour moi, pour le moment, le problème fondamental du deuxième mandat reste entier. On ne sait tout simplement pas où nous conduit ce deuxième mandat, c'est-à-dire exactement qu'est-ce qu'Emmanuel Macron aura voulu obtenir à la fin de 5 ans. Est-ce une économie plus performante avec le plein emploi et une économie française innovante, florissante? Est-ce un modèle social renouvelé? Est-ce lutter contre les grandes injustices et les grandes inégalités d'une société capitaliste avancée? Est-ce inscrire des réformes de société? Est-ce faire la guerre à la Russie? Autant de sujets qui tous mériteraient qu'on y consacre à temps plein l'intégralité d'un mandat. Et là, on ouvre tous les dossiers à la fois, et donc le sentiment est un sentiment pour le moment de confusion. Et j'observe que la popularité du chef de l'État, pour le moment, n'enregistre aucun mouvement positif issu de l'ensemble de ces dossiers qui sont maintenant ouverts presque quotidiennement par le chef de l'État.
Merci beaucoup Bruno Cotrès pour cet éclairage sur l'actualité politique, mais aussi sur les deux quinquennats d'Emmanuel Macron, celui qui s'est achevé en 2022 et celui qui a commencé au même moment, et la volonté effectivement du président de la République d'imprimer quand même une marque. Mais comme vous le dites, on ne sait pas finalement ce qu'on retiendra à la fin, et ça c'est l'histoire qui nous le dira. Je rappelle que vous êtes chercheur CNRS au CIVIPOF et enseignant à Sciences Po, et on vous remercie d'avoir accepté notre invitation et répondu à nos questions. À très bientôt.
Merci à vous.
Et si on en parlait? Du temps, de l'information, des explications. Une émission présentée par Alexis Bachelet.